Merci Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous pour cette dernière séance d'atelier qui est aussi la première journée de printemps. Voilà. Trois questions ont été approfondies pendant ces séances. Je les rappelle. La première, c'est qu'est-ce qu'une religion? Deuxième question, qu'est-ce que la vérité d'une religion? En quoi peut-on dire qu'il s'agit d'une vraie religion, d'une fausse religion, qu'elle affirme des choses vraies ou des choses fausses? Et troisième question, comment les religions peuvent-elles cohabiter? Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce que la vérité d'une religion? Comment les religions peuvent-elles cohabiter? Nous avons vu précédemment, tout d'abord, ce que le Concile Vatican II affirmait relativement à ces questions, Nostra Aetate sur les rapports de l'Église catholique avec les autres religions et Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Nous avons examiné ces deux textes. Nous avons aussi, c'était la dernière séance, écouté ce qu'un thomiste de la fin du XIXe siècle, Maurice d'Hulst, disait à la suite de saint Thomas de la religion comme vertu naturelle et vertu chrétienne qu'il présentait comme reconnaissance du domaine, du pouvoir de Dieu sur toute l'existence humaine, un hommage qu'on lui rend et qui s'exprime suprêmement dans l'acte du sacrifice. C'est ce que nous avons étudié la fois passée. Et puis, c'était l'avant-dernière séance, mais logiquement, on peut en parler en dernier. Nous avons vu comment un thomiste du XXIe siècle, appartenant au courant du thomisme analytique que j'ai présenté un peu rapidement, Roger Puivet, que nous allons lire aussi aujourd'hui, comment ce thomiste pense le rapport de la religion à la vérité. Ce qu'il dit de la rationalité des religions, avec une réflexion fondamentale sur ce qu'est une croyance et l'affirmation du caractère fondamental et sérieux des croyances religieuses. Elles fondent ce canevas de connaissances et de croyances qui constitue mon intellect et je ne change pas de croyance comme de chemise, ou même elle me constitue de telle manière que je n'en change pas facilement, ou je ne suis pas prêt à en changer en fonction d'arguments nouveaux qui ne seraient pas encore portés à ma connaissance. Le caractère fondamental et sérieux des croyances religieuses et leur rationalité. Et étant donné qu'une religion est d'abord une croyance, c'est-à-dire l'adhésion à certains énoncés, il est inévitable qu'il y ait désaccord entre elles, puisqu'elles affirment des choses contraires. Alors, j'ai mis sur la feuille qu'on vous transmettra après la conférence dans une couleur différente pour annoncer tout de suite la couleur, justement, ce qu'était ma position pour ne pas la mélanger avec celle de Monsieur Puivet. Ma position serait qu'il y a une seule vraie religion, mais que je comprendrais comme disposition humaine fondamentale, en droit universel, Thomas dirait vertu, que cette religion repose sur la croyance, et là je rejoins aussi Roger Puivet, en l'existence de Dieu, quelle que soit sa nomination dans les différentes cultures, pensée comme origine et fin transcendante de la vie humaine, comme loi suprême de nos existences, attesté en nous par la voie de la conscience. Cette vraie religion est une croyance qui suscite en nous le respect envers Dieu et envers l'humain en tant que créé à son image, la création en tant qu'elle reflète son être et sa volonté divine, et qui s'exprime dans le sacrifice, la prière individuelle ou communautaire, et aussi la pratique de la justice et de la miséricorde à l'égard d'autrui, le respect de la création. Une sorte de credo fondamental de ce que serait, à mon sens, la vraie religion, et dont je tiens que le christianisme l'assume, il la perfectionne, mais qui n'est pas réductible à cette religion naturelle qu'un théologien, un croyant, pense le christianisme comme l'événement surnaturel de l'autocommunication de la vie divine en Jésus-Christ. Un Dieu nous communique ce qu'il est en Jésus-Christ par la venue dans notre monde du Christ et sa mort et sa résurrection. Donc je pense que le christianisme n'est pas réductible à cette vraie religion, comme le Concile l'affirme, la vraie religion subsiste dans le christianisme, mais je tiendrai qu'il y a une seule vraie religion qui correspond à la croyance que j'ai dite. Aujourd'hui, nous allons prendre connaissance ensemble du chapitre 3 de l'ouvrage de Puyvé. Après que il a constaté les accords religieux, qu'il en a dit les causes, ces premiers chapitres, il a présenté dans le deuxième chapitre une position par rapport à laquelle il se distancie, le pluralisme, hein, selon lequel il y a un pluralisme insurpassable et des religions, qui est une bonne chose. Et puis, donc, le troisième chapitre concernant la vraie religion. Dans ce troisième chapitre, Puyvé affirme d'entrée de jeu la position qui est la sienne. Les croyants ne peuvent pas renoncer à la vérité de leur croyance. C'est ce qui fait de cette croyance une croyance sérieuse, selon son expression. Ils ne peuvent renoncer à penser qu'en dehors de leur religion, il n'y a point de salut, c'est ce qu'il appellera l'exclusivisme sotériologique, et à espérer donc que tous se convertissent à la seule vraie religion, qui est leur religion. Par ailleurs, ils ne peuvent penser qu'ils peuvent anticiper qui sera sauvé. Ils espèrent que tous se convertissent à leur vraie religion, mais ils ne pensent pas pouvoir anticiper qui Dieu sauvera. Ce qui est l'exclusivisme religieux. L'exclusivisme religieux, c'est pas de souhaiter que tous se convertissent, pardon. L'exclusivisme sotériologique, ça n'est pas espérer que tous se convertissent à la seule vraie religion, qui en l'occurrence est la religion chrétienne, on a compris, pour Puyvé, mais l'exclusivisme sotériologique, on reviendra sur ces expressions, ça consisterait à affirmer que tous ceux qui ne se convertissent pas ne seront pas sauvés.
Pour ceux qui ont le livre, c'est dans les pages 75 et suivantes.
Voilà, alors j'ai indiqué entre parenthèses où on en était au moins en mentionnant les sous-titres du texte. Alors là aussi, je dirais oui à la première affirmation, c'est-à-dire les croyants ne peuvent renoncer à la vérité de leur croyance. Je dirais oui à la deuxième, ils ne peuvent renoncer à penser qu'en dehors de leur religion, il n'y a point de salut et à espérer que tous se convertissent à leur seule vraie religion, mais en interrogeant le rapport entre la seule vraie religion, qui à mon sens est, comme je l'ai dit, une religion naturelle assumée par le christianisme, et les religions non chrétiennes. Moi, je ne tiens pas à une position exclusiviste en ce sens qu'il y aurait une seule vraie religion qui serait le christianisme, et toutes les autres religions, en conséquence, devraient être fausses. Mais je dirais oui à la troisième, c'est-à-dire que même s'ils pensent que leur vraie religion est porteuse de salut pour l'humanité, ils ne peuvent penser qu'ils peuvent anticiper qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Premier point, donc, l'exclusivité de la vérité. Donc, pour Puvet, et ça, je crois vraiment que c'est un rappel salutaire qu'il nous adresse, avoir une religion, c'est croire un enseignement, une doctrine, la tenir comme absolument vraie, et, ajoute-t-il, c'est là que je ne suis pas tout à fait satisfait, toute autre doctrine religieuse est fausse. En tout cas, croire, c'est adhérer à certaines positions, et comme croire, c'est adhérer à certaines propositions, à certains énoncés, la croyance est soumise au principe de non-contradiction. Si je crois que Jésus est fils de Dieu, je crois que la proposition Jésus n'est pas le fils de Dieu est fausse. On peut croire que le bouddhisme est vrai, dirait Puvet, c'est l'exemple qu'il prend lui-même, si on croit que le christianisme est vrai. Si on pense que nous sommes promis à la résurrection de la chair, on ne peut pas adhérer à la doctrine bouddhique de la réincarnation indéfinie ou du salut pensé comme le fait d'échapper à ce cycle de réincarnation pour entrer dans le nirvana. Donc, l'exclusivité de la vérité, c'est qu'une affirmation est vraie ou fausse, et son contraire, si elle est vraie, est fausse, et si elle est fausse, est vraie. Si j'affirme il y a du lait dans le réfrigérateur, et si c'est vrai, eh bien, affirmer il n'y a pas de lait dans le réfrigérateur, c'est faux. Alors, c'est là qu'ensuite, j'introduis ma glose, hein, qu'une religion soit fondamentalement une croyance liée à des énoncés, donc en contradiction avec les énoncés des autres religions, ce qui entraîne la difficulté de la coexistence de ces religions, je crois que c'est vrai. Mais la vraie religion telle que je la comprends, enfin, et j'en donne un exemple, la vraie religion telle que je la comprends, c'est, je vous ai dit, une religion qui est reconnaissance d'un principe, d'une fin transcendante que j'appelle Dieu, et qui est créateur et sauveur de toute créature. Eh bien, cette vraie religion, telle que je la comprends, est incompatible avec le fanatisme religieux. Hein? Voilà. Si on pense que toute créature est... ou du moins avec le terrorisme, ça dépend de ce qu'on appelle le fanatisme, mais je ne vais pas pouvoir manquer de respect ou avoir un comportement violent à l'égard d'un être que je reconnais en raison de ma religion comme étant à l'image de Dieu. On n'a pas le droit de bafouer la dignité humaine ou de saccager la création, par exemple, au nom de Dieu. Mais je pense aussi que la vérité est une notion analogique qui ne se réduit pas à l'adéquation de mon intellect à un énoncé et de cet énoncé au réel. Je pense que la vérité donc est aussi ce que j'appellerais enfin, dévoilement de l'être, qui est la vérité. Et ça, quand Thomas parle de la vérité, quand il dit que Dieu est vérité, hein, il vient quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, Puvier ne dirait pas non plus le contraire. Hein, dans la conclusion de son ouvrage, à la page 117, il dit que l'approche propositionnelle, alors ça serait l'approche d'une religion en tant que elle est adhésion à des énoncés, à des propositions. Et l'approche qui dit phénoménologique, alors là, c'est justement une approche qui parlerait de la vérité comme manifestation, dévoilement de l'être, ne sont pas incompatibles. Et je pense qu'il est important quand même de le souligner parce que dans son exposé, en raison de ce qu'il veut montrer, on s'en tient quand même à l'aspect propositionnel, mais on peut aussi avoir une conception plus ouverte, plus large de la vérité. Et dans cette conception, le discours religieux a différentes modalités, il n'est pas univoque. On ne peut pas le réduire à des articles de foi univoques et décontextualisés. Les écrits religieux ne sont pas seulement informatifs, mais aussi relationnels. Ils sont écrits de telle manière qu'ils suggèrent en nous et qu'ils suscitent en nous une certaine forme de relation avec Dieu et avec le prochain. Et il faudrait donc comparer relation instaurée avec Dieu et avec le prochain à relation instaurée avec Dieu et le prochain d'une religion à l'autre pour dégager ce qui est compatible ou pas, vrai ou faux, dans une religion concrètement vécue, sans aller dans un peu le sens qui est celui de notre auteur ici, où on a l'alternative, c'est religion vraie d'un côté, religion fausse de l'autre. Je pense qu'un énoncé religieux n'est pas nécessairement du même type qu'il y a du lait dans le réfrigérateur. Je pense que quand je dis je crois en Dieu, ou je dis que Dieu est Trinité, ou je crois, ou que je lis le Cantique des Cantiques, je suis devant des énoncés qui ne sont pas de même nature que voilà, il y a du lait dans le réfrigérateur. En somme, j'interrogerai Roger Privé dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire que il a une approche ici qui est très très univoque de la vérité et donc de la religion. Mais n'empêche que son approche, encore une fois, est un rappel vraiment intéressant de plus d'un point. Et c'est là-dessus que je voudrais m'étendre. L'exclusivisme est-il scandaleux? L'exclusivisme de la vérité, hein, l'exclusivisme qui consiste à dire que si une croyance est vraie, une croyance contraire est fausse. Roger Puivet, je trouve tout à fait raison, remet en question une présentation de la religion dans laquelle le clivage entre vrai et faux ne s'appliquerait pas. Au fond, savoir si ce que dit la religion est vrai ou faux ne serait pas pertinent. Parle de suspension halétique, halétès, c'est la vérité. Donc, bon, voilà, on va s'intéresser aux religions comme des faits culturels, mais sans prendre en compte la prétence, enfin, la vérité, sans s'interroger sur la vérité de ces croyances. C'est ce qu'on fait, je pense d'ailleurs, je dirais, dans l'approche de ce qu'on appelle la science des religions aujourd'hui, ou dans une approche psychologique du religieux. Hein. Et c'est une difficulté d'ailleurs dans le dialogue qu'on peut avoir entre une personne qui se place du point de vue des sciences humaines, puis une personne qui se place du point de vue du croyant ou du théologien. Mais bon, si c'est légitime peut-être quand on fait de la psychologie ou de la sociologie, quand on fait de la philosophie, et rendre compte de la religion sans tenir compte de sa prétention à la vérité, sans s'interroger sur la vérité qui est la sienne, c'est beaucoup plus problématique. Or, de fait, c'est essentiel à une religion de prétendre à la vérité. Et on ne donne pas sens à sa vie, si le propre de la religion, c'est de donner sens à sa vie, on ne donne pas sens à sa vie comme on choisit un menu sur la carte d'un restaurant. Écrit très, très bien Roger Puivet. Hein. C'est bon, voilà, si c'était effectivement, si la religion correspondait exactement à la vision qu'on peut en avoir d'un point de vue purement sociologique ou psychologique, alors, bon, ben voilà, c'est une question optionnelle, si ça me fait du bien, si ça correspond à la tradition qui est la mienne, voilà, donc je choisirais un peu, bon, cette religion comme je choisis un plat sur un menu de restaurant, mais les choses ne se passent pas comme ça, bien sûr. Hein. L'exclusivisme, donc, premier point, Puivet tient à l'exclusivité de la vérité en matière religieuse. Il affirme que cette position de l'exclusivisme n'est pas scandaleuse au regard de la raison. Et ensuite, il se pose une question morale. Est-ce que l'exclusiviste serait arrogant? Est-ce que celui qui tiendrait que sa religion est vraie, à l'exclusion des autres qui disent le contraire de la sienne, est-ce que éthiquement c'est être arrogant? L'arrogance, précise-t-il, c'est l'attitude de celui qui juge que ce qu'il croit doit être accepté par tous parce qu'il le croit. Son argument, c'est comme je crois cela, les autres doivent le croire. Ceux qui ne croient pas comme lui sont méprisés par lui. Ce sont des naïfs, des ignorants, des illusionnés. De fait, l'attitude de l'arrogant est une attitude orgueilleuse et intolérante. Il ne supporte pas qu'on pense différemment que lui. Mais si la prétention à la vérité exclusive d'autres vérités, l'exclusivisme de la vérité est légitime, alors on ne peut pas taxer l'exclusiviste d'arrogant. Mais bien sûr, si la prétention à la vérité est légitime et dans des contextes de pensée post-moderne, on pourra disqualifier non seulement la prétention pour les religieux à la vérité, mais disqualifier la vérité elle-même comme, par exemple, une ruse aliénante du pouvoir aujourd'hui déconstruite. Il y aurait derrière la prétention à la vérité un pouvoir qui cherche à s'imposer en s'autorisant d'elle. Dans le cadre d'une religion, la vérité est présentée comme un don. Cela se vérifie d'ailleurs au-delà du domaine religieux. Le privé tient ici encore à la rationalité du religieux. Il donne l'exemple d'un philosophe qui prend connaissance d'un théorème d'un mathématicien. Il n'est pas capable de comprendre la démonstration qui conduit au théorème du mathématicien, mais il fait confiance au mathématicien et ça va modifier la philosophie qui est la sienne. Et il est tout à fait raisonnable de déclarer qu'on détient une vérité quand on l'a reçue. Il n'est pas arrogant de dire qu'on détient une vérité que l'on a reçue. Un croyant peut être arrogant, mais il ne l'est pas en tant même qu'il croit. Et s'il croit, et s'il croit vraiment, il tient comme vrai ce qu'il affirme, à l'exclusion du contraire, bien sûr. Non seulement il n'est pas arrogant, mais on peut même dire qu'il est humble, en comprenant son humilité comme réceptivité, docilité à l'égard de la vérité qu'il reçoit, et qui n'est pas avec ce qu'on l'a, qui n'est pas ce avec quoi on la confond, l'humilité, trop souvent, c'est-à-dire la lâcheté, une forme de lâcheté intellectuelle, qui n'ose pas affirmer, et donc quand il le faut s'opposer, qui n'ose pas prendre position. Non seulement l'exclusiviste religieux n'est pas, en tant que tel, arrogant, on peut espérer qu'il est humble dans la manière dont il accueille une vérité qui lui vient d'ailleurs, mais il peut aussi être tolérant. Religion, dit Puyvet, à la page 84, c'est un terme indexical, comme moi ou toi, c'est-à-dire que le sens que revêt le mot va dépendre de la position du locuteur, de celui qui parle. Quand je dis moi, le sens de moi va dépendre de la désignation de moi-même, hein, comme référent de ce moi. La religion est un terme indexical, c'est-à-dire comme moi et toi, c'est-à-dire que quand je dis la religion, la vraie religion, je dis ma religion nécessairement, puisque je ne peux pas m'empêcher de concevoir qu'elle soit vraie, puisque c'est une croyance, comme dit Puivet, sérieuse. Et si j'y crois, eh bien je la considère comme absolument vraie. Les religions autres ne sont pour moi des religions qu'en apparence. Elles sont faites de fausses religions. Mais en tenant cela, c'est la position de l'exclusiviste religieux. Seul l'exclusiviste en matière religieuse se montre vraiment tolérant, c'est-à-dire qu'il supporte ceux qui, à ses yeux, ont tort de croire ce qu'ils croient, qui est opposé à ce qu'ils croient. Sinon, il n'est pas tolérant, mais il est indifférent. S'il n'est pas exclusiviste religieux, alors comme les vérités, en fait, se valent les unes les autres et qu'on ne peut pas juger d'une religion en termes de vérité, alors on est dans ce qu'on appelle l'indifférentisme. Ou encore le conciliationnisme, qui est cette position qui consiste à suspendre son jugement parce qu'autrui pense différemment de soi. À partir du moment où une personne que je reconnais comme autant qualifiée que moi pour chercher et trouver la vérité pense différemment de moi, ah, et ben alors, je m'interdis de penser ce que je pense. Ça relèverait plutôt de la pusillanimité que de l'humilité. Et là encore, Puivet réfléchit aux conséquences morales en termes de justice. Et il va distinguer entre l'exclusivisme doctrinal qui est le sien et l'exclusivisme religieux qu'il condamne. Alors, on a bien compris, hein? Je ne sais pas. Il y a un exclusivisme de la vérité qui est un exclusivisme doctrinal. Deuxième, j'ai parlé tout à l'heure, on y reviendra, de l'exclusivisme sotériologique qui consiste à dire ceux qui ne croient pas comme je crois ne seront pas sauvés ou qu'il est nécessaire de croire comme je crois pour être sauvé. On y reviendra. Exclusivisme de la vérité, exclusivisme doctrinal, exclusivisme sotériologique. Il va distinguer de l'exclusivisme doctrinal, de la vérité, l'exclusivisme qu'il dit religieux. L'exclusivisme religieux n'est pas un exclusivisme théorique, mais c'est un exclusivisme pratique. C'est, dans la pratique, le fait d'empêcher autrui de vivre selon sa religion. C'est de l'empêcher de s'habiller comme il croit obligatoire de s'habiller pendant sa religion, de se nourrir comme il croit obligatoire, de croire comme il croit, de pratiquer comme il pratique, etc. Ça, c'est de l'exclusivisme religieux et Puivet le condamne. Même si il doit reconnaître que beaucoup de religions sont, dit-il, théologico-politique, c'est-à-dire qu'elles sont liées à une certaine conception de la société, du pouvoir, un certain régime politique, et que, de ce fait, exclusivisme doctrinal et exclusivisme religieux se recouvrent. Si je pense que le bon régime politique est celui-ci et pas un autre, je vais avoir tendance, non seulement à tenir l'exclusivisme doctrinal, mais aussi l'exclusivisme religieux. Et donc à vouloir une société correspondant tout entière à la religion qui est la mienne et imposer à tous ceux qui vivent dans cette société hein, d'adopter les règles qui sont les miennes. Mais quoi qu'il en soit, en fait, en droit, l'exclusivisme religieux peut être détaché de l'exclusivisme doctrinal. C'est-à-dire, je peux. Enfin, donc, j'ai dit que l'exclusivisme doctrinal peut s'accompagner d'exclusivisme religieux, hein, lorsque la religion a une dimension politique. D'accord? Mais inversement, je peux tenir une position qui est celle de l'exclusivisme religieux, c'est-à-dire empêcher les autres de pratiquer la religion qu'ils estiment devoir pratiquer, sans exclusivisme doctrinal. Je peux très bien ne pas tenir ma religion comme vraie, mais imposer cette religion comme norme. Et on sait, enfin, que je pense à un très beau film, Timbuktu, qui est sorti il y a une dizaine d'années. Ça se passe au Mali et on montre comment un village qui jusque-là, dont les habitants pratiquaient un islam très traditionnel, très tolérant, très humaniste, disons, est investi par l'État islamique. Et on voit que les islamistes qui envahissent le village, en fait, n'ont aucune morale et probablement ne croient ni en Dieu ni en diable, mais ils imposent la charia aux habitants. C'est un exemple où on a un exclusivisme religieux sans exclusivisme doctrinal, où la religion n'est plus du tout question de vérité, mais elle est instrumentalisée politiquement. En revanche, et c'est ce qu'il va essayer de montrer à la fin de son chapitre, on peut puiser les forces de la tolérance dans la religion. On peut puiser les forces de la tolérance même dans l'exclusivisme doctrinal. Et il précise que la tolérance, donc, c'est pas nécessairement mauvais, c'est le fait, et ça ne peut qu'être le fait de l'exclusivisme doctrinal. Il faut croire en la vérité de sa religion pour être appelé à la tolérance, mais la tolérance en soi n'est pas une vertu. Hein, c'est-à-dire que, on peut être tolérant à bon ou à mauvais escient. Parlons maintenant de l'exclusivisme sotériologique, c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle la condition nécessaire du salut est l'appartenance à telle ou telle religion. Il faut monter en avant, je pense. J'en suis à 80. Ouais, encore. Voilà, donc c'est ça, il est exclusiviste, c'est bien. Eh bien, l'exclusivisme sotériologique n'est pas nécessairement lié à l'exclusivisme doctrinal ou religieux. J'ai mis religieux, mais doctrinal ou religieux. De fait, en bonne théologie catholique, il n'est pas nécessaire d'être catholique pour être sauvé. C'est l'affirmation du Concile Vatican II. Et on a même excommunié tel théologien qui affirmait le contraire. Hein, alors c'est malheureux parce que il affirmait que hors de la communion de l'Église catholique, on ne pouvait pas être sauvé, ce qui contrevient à la doctrine du magistère telle qu'elle était énoncée depuis le XIXe siècle par Pie IX. Et donc il a été lui-même excommunié. C'est un théologien américain dont je ne me souviens plus le nom. Donc c'est sous le pontificat de Pie XII que c'est censé passer. Donc en fait, on peut être chrétien, tenir que le christianisme est la seule vraie religion, sans affirmer que ceux qui n'adhèrent pas à cette religion ne seront pas sauvés. Mais je ne suis pas très clair là-dessus parce que Roger Pouivet tient lui-même l'exclusivisme sotériologique en ce sens qu'il tient que la seule vraie religion qui est le christianisme est la seule voie de salut véritable. Mais ça n'entraîne pas nécessairement que ceux qui professent une autre religion, Dieu n'aura pas les moyens de les sauver. Parce que pour le chrétien, Dieu est libre de sauver qui il veut, et de fait, il a offert à tous le salut par le Christ, et c'est ce que le chrétien a le devoir d'annoncer, hein, que tous sont sauvés dans le Christ. Avons-nous même Dieu? On l'entend souvent dire, hein, on se pose la question, est-ce que notre Dieu, est-ce que Dieu des musulmans est le Dieu des chrétiens? C'est surtout la manière dont on pose la question, et c'est surtout la question que lui-même se pose. Il va répondre non. Ne vous faites pas trop d'illusions. Il y a deux scénarios, dit-il, auxquels on peut rapprocher la situation de celui qui s'interroge sur l'identité ou pas du Dieu des chrétiens et du Dieu des musulmans. Mettons en part le côté du judaïsme qu'il n'abordera qu'à la fin. Premier scénario auquel on peut rapprocher cette situation, c'est je me trouve dans une pièce et puis je vois une dame qui est en train de consommer du gin et je dis, eh bien, cette dame est, je dis à mon voisin, cette dame est charmante. Sociologiquement, c'est très situé, ça, je trouve ça. Imaginez. C'est autre chose. Mais bon, voilà, je suis dans le même. Voilà. En fait, la dame dont je parle boit du whisky et pas du gin. N'empêche que la dame que je désigne, même si elle ne boit pas du whisky mais du gin, est bien la personne dont je parle. Et la personne, mon interlocuteur. Voilà. Donc, on fait référence à une même personne qui se trouve dans une même pièce en se trompant sur elle relativement à tel ou tel détail la concernant. Eh bien, nous ferions référence ainsi au même Dieu, mais en disant des choses différentes de lui. Premier scénario. Deuxième scénario, je dis quelque chose d'une dame dont je dis qu'elle est présente dans la pièce, mais elle n'est pas dans la pièce.
Histoire du lait.
Oui, s'il n'est pas dans le réfrigérateur. Alors, comment savoir si je me réfère à la même personne que celle à laquelle pense mon interlocuteur, puisqu'elle ne se trouve pas dans la pièce où je dis qu'elle se trouve. Or, il semble que c'est plutôt au deuxième scénario que nous rapporte la situation de ceux qui s'interrogent sur l'identité ou pas du Dieu des chrétiens et des musulmans. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas perceptible de manière sensible et identifiable comme une personne qui se trouve dans la même pièce que moi. Je peux me tromper dans la description, mais voilà, elles sont dans la même pièce et j'ai de quoi montrer que même si elles ne correspondent pas à la description que j'en donne, c'est la même personne dont je veux parler. Je n'ai pas le moyen de savoir si c'est du même Dieu que nous parlons, parce que Dieu n'est pas expérimentable. Si je dis des choses différentes de lui, c'est que ce n'est pas le même, puisque dans ce cas, précisément, je l'identifie seulement par ce que je dis de lui. Je ne l'identifie pas par ce que je peux le désigner, parce qu'il est dans la même salle, mais je l'identifie par ce que je dis par ce que je dis de lui. Et si je dis de lui des choses qui sont fausses, hein, eh bien alors, n'y a pas vraiment de référent. Je ne peux pas faire référence au vrai Dieu en me trompant à son sujet, puisque je ne l'identifie pas autrement que par ce que je dis de lui. Hein, donc je ne peux pas. Voilà. Descriptions respectives de Dieu sont trop différentes, dit Puivet, entre les monothéismes judéo-chrétiens d'une part et musulmans d'autre part, pour que l'on puisse parler du même Dieu. Et même le Dieu des musulmans pour un chrétien n'est pas Dieu du tout. Sa position. Et donc, il va prendre position contre l'unanimisme religieux. Deux théories peuvent soutenir l'unanimisme religieux. Il serait possible donc d'être unanime en appartenant à des religions différentes. Alors, bon, c'est de la philosophie analytique, hein, donc on a une théorie du langage, de la référence très précise avec des expressions techniques. Alors, la philosophie analytique réfléchit au rapport entre le nom et ce à quoi se réfère le nom. Et pour penser le rapport entre le nom et ce à quoi se réfère le nom, on peut proposer une théorie causale de la référence, c'est-à-dire une théorie dans laquelle un nom est associé à qui porte ce nom à partir d'un acte initial de désignation. Je décide d'appeler mon enfant Pierre, Paul ou Jacques, je baptise tel enfant Pierre, Paul ou Jacques, c'est un acte initial de désignation, et c'est à partir de cet acte initial de désignation que tel nom que j'ai choisi pour lui va se référer à cette personne. Et donc, dans ce cas, on pourrait tenir en faveur de l'unanimisme religieux que les trois monothéismes renvoient de manière commune à une désignation originelle. Laquelle? C'est l'événement du Sinaï. Sur le Sinaï, Moïse, reconnu prophète par les juifs, les chrétiens, les musulmans, entend Dieu se désigner comme celui qui est. Le problème, c'est que, quoi qu'il en soit, du sens que l'on va donner à celui qui est, lorsque Dieu se désigne ainsi, Dieu ne se donne pas un nom commun ou un nom propre. Il ne dit pas, voilà, je suis un étang, ça n'a aucun intérêt, j'allais dire, hein. Donc c'est pas un nom commun. C'est pas non plus un nom propre. Il dit pas, je suis celui qui est, comme il dirait, je suis François, Paul, ou etc. Il se décrit. Il dit ce qu'il est. Et si on n'est pas d'accord sur la signification de cette description, si on n'est pas d'accord sur ce que signifie celui qui est, eh bien, on ne se réfère toujours pas au même Dieu. Et ce n'est pas parce qu'à l'origine, il se serait désigné de cette manière-là, si on est, comme il se désigne en se décrivant, si on n'est pas d'accord sur le sens de la description, on ne peut pas être unanime dans l'attachement que l'on a au même Dieu. Deuxième théorie de la référence, après la théorie causale, c'est la théorie de la signification distinguant entre référence et sens. C'est-à-dire, je peux désigner une chose en la décrivant, mais et je peux la décrire de manière éventuellement contraire, mais la réalité qui est derrière ces diverses descriptions se trouve être la même. C'est ainsi que Vénus, il s'avère que c'est ce que désigne étoile du matin, étoile du soir, selon deux descriptions différentes et semble-t-il contradictoires. Et puis on se rend compte que c'est pas vraiment une étoile, mais que c'est une planète. Mais quand même, derrière deux descriptions différentes, il y a une même réalité. On retrouve là le cas, non pas du lait dans le réfrigérateur, mais de la femme qui boit soit du gin, soit du whisky, mais enfin, c'est la même personne. Ou l'autre exemple, ça rappellera d'agréables souvenirs aux lecteurs de BD, c'est l'identité de Superman et de Clark Kent sous. Voilà, c'est-à-dire, vous savez que Clark Kent, c'est un fonctionnaire binoclard, un peu comme moi, un peu maladroit comme moi aussi, mais qui se trouve hors des heures de bureau être Superman. Et il y a une dame qui s'amourache de Superman alors qu'elle trouve que Clark Kent est tout à fait ordinaire et quelconque. Or, c'est la même personne. Bon, la différence, on comprend bien entre la référence et le sens. Le problème, et là on se retrouve dans le cas du premier scénario évoqué tout à l'heure, c'est que dans le cas de Dieu, nous n'avons pas le moyen de nous assurer de cette identité, parce que Dieu n'est pas dans le même monde que nous. Donc, voilà, rien ne nous permet de dire que nous avons le même Dieu. Remarquez, dans le deuxième cas, quand même, on ne peut pas le vérifier, mais ça pourrait bien être le cas. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas vérifier que c'est le même Dieu, mais ça pourrait être finalement le même. Et si j'avais une expérience de Dieu qui n'était pas une expérience assimilable à celle d'un objet intramondain, mais qui est quand même une expérience vécue de Dieu à l'intime de moi-même, dans ma conscience, je ne sais pas. Bref. Et d'ailleurs, non seulement il faut dire que nous n'avons pas le même Dieu qu'avec les musulmans, en tout cas, il a bien montré que rien ne nous permettait de l'affirmer, mais en fait, pour les chrétiens, le Dieu des musulmans n'est pas Dieu, donc les musulmans n'ont pas de Dieu du tout, en réalité, et inversement, pour les musulmans, le Dieu des chrétiens n'est pas Dieu, c'est-à-dire que les chrétiens n'ont pas de Dieu du tout. Il ne suffit pas de dire seulement nous n'avons pas le même Dieu, mais ils n'ont pas de Dieu. Donc, conclusion, il n'y a pas de communauté des grands monothéismes. Alors, ce que je vous ai dit en introduction, moi je pense que si, parce que les religions chrétiennes ou musulmanes partagent la confession explicite de ce que j'ai appelé plus haut la vraie religion comme croyance à un unique Dieu, créateur, juge et sauveur, qui donne leur dignité aux êtres qu'il a créés. Et il me semble d'ailleurs que chez saint Thomas, c'est le principe même de la possibilité du débat contra gentes. On a des choses en commun, ça nous permet de débattre entre nous, donc à partir d'une conception qu'on a en commun de Dieu, que nous donne la raison. Et puis ensuite, on va discuter avec les musulmans d'une certaine manière, parce qu'on a en commun avec eux la raison, puis avec les juifs, on a en commun le Premier Testament, et puis avec les chrétiens hérétiques, on a en commun les Écritures. Mais donc, on suppose quand même une base commune qui rend possible un débat. Privé, donc, affirme que non seulement quand on croit que c'est vrai, et on croit que celui qui ne croit pas comme moi croit quelque chose de faux, non seulement on n'a pas le même Dieu, mais n'a pas de Dieu du tout, Puivet non seulement dit cela, mais il tient la thèse du réalisme théologique, c'est-à-dire que non seulement le croyant, s'il est vraiment croyant, croit la vérité absolue de la religion qui est la sienne, mais il pense aussi qu'il a raison de le faire, c'est-à-dire qu'il y a des énoncés religieux qui sont rendus vrais par la description qu'il donne de Dieu. Que dire de Dieu qu'il est un et trine, c'est un énoncé absolument vrai. Et non seulement, si je suis croyant, je ne peux pas faire autrement de croire qu'il est vrai, mais il est vrai, c'est la thèse du réalisme théologique. Alors, j'ajoute, toujours avec ma couleur, je pense qu'il est possible de tenir que le chrétien et le musulman prient le même Dieu, celui dont leur cœur et leur livre saint attestent l'existence, comme leur créateur et juge, tout en comprenant Dieu autrement, puisque l'un dit que il est un en trois personnes et que l'autre le nie. Puivet ensuite aborde le cas du judaïsme pour dire qu'il y a une situation asymétrique, et on le reconnaîtra aisément, c'est-à-dire que le chrétien dispose dans sa foi de quoi reconnaître la vérité du Dieu juif, ce qui n'est pas le contraire. Le juif ne dispose pas dans sa foi de quoi reconnaître dans le Dieu des chrétiens le vrai Dieu. Les dernières lignes de Roger Puivet concernent la religion comme vertu. C'est bien ainsi que dans la somme de théologie, Thomas parle de la religion comme d'une vertu, d'une disposition profonde qui m'habilite à un agir bon, épanouissant ma nature. Pour le croyant, la conversion de celui qui ne croit pas comme lui est toujours souhaitable. L'appel à la conversion est même constitutif de toutes les religions, ce qui rend difficile leur cohabitation. Mais dans la religion qui est la mienne, la religion chrétienne, il y a le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui veut dire que la vertu chrétienne de religion implique de vivre pacifiquement les inévitables désaccords avec les autres religions. Qu'en est-il pour les autres religions? Ben, ça, c'est à elle de nous le dire. Alors, je pense que, de manière globale, et dans la conclusion de son ouvrage, aux pages 118 et suivantes, Roger Privet nous apporte, et c'est quelque chose de précieux, le rappel qu'une religion, si elle n'est pas seulement une doctrine, c'est une pratique, c'est une expérience, c'est un vécu, c'est une tout ce que vous voulez, c'est une culture. Mais si la religion n'est pas seulement une doctrine, elle est, et elle est essentiellement une doctrine qui se formule dans des croyances auxquelles j'adhère. Et si j'adhère en elle, je ne peux pas affirmer que tout se vaut. Il a aussi raison, il a aussi, et c'est un apport, je trouve, très intéressant, raison de nous faire prendre de la distance par rapport à une approche naturaliste de la religion qui rejette toute prétention religieuse à la vérité et qui ne tient pas compte du rapport des religions à la vérité dans leur description du religieux, leur évaluation du religieux, leur préconisation à l'égard du religieux. Et il a raison aussi de tenir que les religions n'ont pas à s'effacer en tant même que croyance pour assurer la paix. Hein, c'est ce qu'il affirme dans son dernier chapitre avec force, et ça devrait nous rassurer de sa part et en soi, hein, c'est-à-dire que le christianisme, même si il prétend être l'accueil de la vérité absolue, cette vérité absolue étant amour, nous enjoint de vivre pacifiquement nos désaccords, même lorsque ces désaccords portent sur les choses qui, à nos yeux de croyants, sont les plus importantes. Alors là, je suis assez fier de moi parce que il est 9 h moins
Bravo.
une. Donc, quoi, quand on est très vieux, le temps. En tout cas, j'en ai fini. Je transmettrai le mot à Monsieur Privet. Je pense que Monsieur Privet est d'une telle trempe que ça lui fera plutôt plaisir d'avoir un contradicteur.
Alors, les questions sont les bienvenues pour Fragile qui veut intervenir dans la salle ou à distance, ici.
Je voudrais savoir comment le secteur privé pour dialoguer avec les autres religions. Quand on parle d'une position exclusiviste comme la sienne, qu'est-ce qu'il y a comme espace de dialogue avec un musulman, par exemple?
Alors, la réponse est simple parce qu'il la donne lui-même. Il ne répondra pas à cette question. Ce n'est pas son affaire. C'est-à-dire que il a rappelé un certain nombre de choses concernant la nature des religions et ça lui semble important, je crois que c'est vrai, et ce qu'il dit nous fait comprendre pourquoi il est vraiment difficile pour des religions de cohabiter de manière pacifique. Mais il dit, voilà, il pose lui-même à la question que Jean-Luc vous venez de poser. Mais alors, voilà, vous dites que c'est difficile, mais qu'est-ce que vous proposez? Il répond rien. Donc, c'était pas mon but dans ce livre. Voilà, sinon, quand même, on l'a entendu, hein, que ce qu'il nous dit, c'est que l'exclusivisme doctrinal qui est le sien n'entraîne pas nécessairement une attitude intolérante, mais au contraire, sa doctrine étant le christianisme, l'enjoint de respecter celui qui ne pense pas comme lui. Ce qu'il dit donc, il faut qu'il y ait dialogue. Maintenant, comment ça doit se passer, ça, il ne le dit pas. En tout cas, il se démarque par rapport à ce qu'il appelle l'exclusivisme religieux, hein, qui serait une pratique sociale intolérante, coercitive. Il est manifestement pour la liberté religieuse. Hein. Il n'a pas cette position qui est la position aujourd'hui en catholicisme des disciples de Monseigneur Lefebvre, hein, des lefébristes, qui est de ne pas accepter le principe de la liberté religieuse. Parce que dans la société, la vérité a ses droits et le bien commun prévalant sur le bien des individus, l'État doit user de moyens coercitifs pour imposer la vérité. C'est un principe de chrétienté qui a été tenu par la papauté jusqu'au début du XXe siècle. Voilà, et qui n'est vraiment contredit que depuis le Concile Vatican II.
Qu'est-ce qu'il dit quand il explique tu aimeras ton prochain comme toi-même? À la page 114,
Voilà.
il développe.
Voilà. Même si celui qui ne croit pas comme moi, et donc qui, selon moi, a tort, eh bien, même dans ce cas, je dois montrer les mêmes qualités d'âme envers son égard
C'est ce
qu'envers
qu'il
tout le
dit, hein,
reste.
cependant, la vertu de religion requiert la cohabitation avec tous ceux qui n'ont pas reçu le don de la foi. La vie de mission, qui est celle de tout croyant, suppose cette cohabitation et donc une sainte concorde.
Mais il ne dit pas comment ça doit se. Qu'est-ce qui la rend concrètement possible? Ça, il ne s'engage pas.
Est-ce qu'il y a des questions à Frère Gilles, alors? Ceux qui sont en visio, vous avez... Non?
Finalement, la cohabitation, qu'est-ce que c'est? La cohabitation, qu'est-ce qu'il entend précisément par cohabitation?
Bon, je
Pour
pense
avoir plein de sens.
qu'il ne donne pas d'autre sens que celui de vivre dans la même société, mais ça n'est pas. Et il y a quand même. Enfin, voilà. Non, il ne précise pas d'autre sens. Ensuite, il parle de mission, il parle de conversion, donc il parle de dialogue, il parle d'échange. Mais dont le critère doit être celui de la vérité. Donc ça, c'est déjà un type de relation. Il peut y avoir des valeurs morales communes, hein, partageant la même raison, mais donc, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'envisage pas de parler de religion, comment dire, une religion qui serait une religion naturelle et qui. Alors, on peut tenir que il n'est pas naturel de croire l'existence de Dieu, mais là, je pense qu'on est quand même très loin de saint Thomas d'Aquin si on tient cela. Et si on tient cela, c'est-à-dire qu'il est naturel de croire l'existence de Dieu, l'affirmation de l'existence de Dieu, comme le premier principe et la, le, au moins la loi de mon existence, je n'ose pas dire la fin, parce que peut-être que ce serait pas vrai, très juste de dire ça en islam, je ne sais pas, mais en tout cas, comme le principe et la loi de mon existence, ces convictions communes devraient quand même permettre une coopération dans le domaine politique, dans le domaine social. Voilà.
Il peut y avoir des homogénéisations.
Pour lui, si, non seulement il peut, mais il doit y avoir, et l'évangélisation doit avoir comme but, dans cette évangélisation, je ne peux pas ne pas espérer que celui qui a tort vienne à la vérité. Si, il y a une évangélisation pour lui. Et il faut qu'il y ait évangélisation. On ne peut pas être chrétien sans annoncer le Dieu de Jésus-Christ et sans espérer que celui qui m'entend vienne à la vérité que je lui annonce.
Mais je ne peux rien recevoir de l'autre.
Apparemment, en tout cas, il
Pas
ne
grand-chose.
l'envisage pas du tout.
Ouais.
Il ne l'envisage pas du tout. Concrètement, peut-être, mais effectivement, il ne l'envisage pas du tout. Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense quand même que si on quitte le domaine de la philosophie pour celui de la théologie, de la spiritualité, on s'est ouvert dans les dernières générations à une conception de la mission qui était une rencontre avec un apport réciproque. C'est-à-dire que celui auquel je m'adresse va me faire aussi comprendre, connaître quelque chose de la vérité et du vrai Dieu. Alors ça, c'est pas du tout son approche.
Parce que même il y a un contexte global, c'est que le présupposé de beaucoup de personnes actuellement, c'est dans notre monde, c'est que les religions doivent cohabiter. Enfin, et donc lui, c'est pas qu'il, comment dire, c'est pas que ça n'est pas possible, c'est que comment dire, si elles peuvent et doivent cohabiter, encore faut-il savoir à partir de quelle différence fondamentale elle cohabite. Voilà. Parce que ce qui met bien en évidence, c'est que comment dire, on satisfait un peu facilement une conception très globalisante de Dieu et qui vient très rapidement une sorte de gloubi-boulga dans lequel chacun met ce qu'il veut et en fait sur lequel personne ne s'entend. Parce qu'à force de vouloir que les religions cohabitent, on ne s'entend plus rien sur rien du tout. Donc autant partir de différences pour voir que la cohabitation est difficile, mais pas forcément impossible.
Oui, c'est exact. Je crois que vous dites parfaitement quelle est sa position et
Ouais.
son intérêt.
Ce qui est net d'ailleurs, c'est qu'il ne dit pas la cohabitation n'est pas possible. Le sous-titre, c'est pourquoi est-elle si
Tout à
difficile?
fait. Tout à fait.
Donc, j'avais tendance au départ à me dire, il démontre que ça n'est pas possible, mais non, il démontre que c'est difficile. Enfin, il explique pourquoi c'est
Tout
difficile.
à fait.
Mais il ne dit pas que ce n'est pas possible. Donc, enfin, tout à fait, dans le sens de ce que vous disiez, monsieur. Bon, les questions ne fusent pas. Que peut-on dire d'autre?
Mais
Il se situe aujourd'hui comment, on pourrait dire, dans l'univers catholique?
pardon, comment?
Privé, comment on pourrait le, ah, si, même si c'est un peu réducteur, mais comment on pourrait le positionner?
Oh, je crois que c'est catholique. Non, mais tout à fait catholique
Oui, je doute.
et comment dire, adhérent à l'enseignement de Vatican II, c'est catholique classique, qui donc, je pense, peut-être par sa femme, a des attaches avec le catholicisme polonais. Ces attaches sont aussi des attaches philosophiques, hein, parce que le thomisme analytique s'est développé en Pologne pendant l'entre-deux-guerres. Et il s'affirme dans cet ouvrage catholique, mais en affirmant aussi que cela n'entame en rien la qualité philosophique de son raisonnement.
Ça me permet de vous rappeler que donc dans 2 semaines ici, il y aura une conférence où Roger Privé lui-même viendra, donc le jeudi 3 avril, pour nous parler de son livre, etc. Et donc, ce sera l'occasion aussi d'échanger avec lui et de lui poser des questions directement. Donc, le jeudi 3 avril, ce sera dans la salle foyer qui est un peu plus loin, pas dans cette petite salle, parce qu'on espère être beaucoup plus nombreux. Et donc, Roger Privé sera là pour parler de ce texte, de sa façon de prendre les choses et qu'on puisse en débattre avec lui.
On aura une gigue de whisky.
Non alcoolisé.
À 20 h, même si on dit à la fin de la messe que c'est aussi la feuille paroissiale.
Ne croyez pas ce qu'on vous dit à la messe.
Pour les questions d'horaire, uniquement.
Cet enseignement est très intéressant parce que ça nous. Enfin, c'est très intéressant d'être fort en fait dans sa croyance. Et voilà, ce que l'on croit, c'est vrai. Voilà, on a une vraie recherche de vérité et l'autre aussi cherche la vérité, etc. Donc, et du coup, enfin, je trouve qu'il y a une exigence dans voilà dans ces propos et qui nous dit, ben, voilà, en fait, vous n'avez pas le droit de mettre de côté ce en quoi vous croyez. Parce que là, c'est fondamental. Et dans l'une des béatitudes, je pense que c'est la dernière, c'est voilà. En fait, non, mais Jésus qui dit, enfin, il y a heureux ceux qui vous font jusqu'au martyr, voilà, pour défendre votre foi, la foi. Enfin, je crois que ça va non plus. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, je trouve que ça nous oblige à aller plus loin dans une vraie recherche de l'autre, en fait, de connaître l'autre, le comprendre vraiment, l'aimer vraiment, parce que on croit, enfin, on tient pour vrai ce en quoi on croit, et pourtant on va rencontrer l'autre, et peut-être en se disant, ce que l'on croit, c'est en fait, notre foi, c'est un peu comme des lumières qui ont été allumées et que l'on voit, qui sont là, que l'on voit, donc c'est facile de croire. Mais en dehors de ça, en fait, on est un peu dans le noir, et l'autre a des lumières un peu placées différemment. Mais il est par ailleurs dans le noir aussi, à niveau d'autres angles. Et donc, en fait, j'essaye de comprendre ce qu'il voit voilà, en quoi cela le nourrit, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est un approfondissement de notre vraie rencontre de l'autre. J'ai cherché, voilà, comment rendre tout compatible, comment rendre compatible un vrai amour de l'autre, et voilà, et je dirais même que c'est en étant ferme dans notre foi que l'on est vraiment dans l'amour de l'autre et dans la rencontre de l'autre.
La rencontre de l'autre, lorsqu'elle est habitée par une exigence de vérité,
Voilà.
même si cela entraîne une cohabitation difficile ou des tensions, est plus forte que si on n'a pas cette exigence.
Voilà, mais le fait même de reconnaître que l'autre cherche comme moi la vérité, voilà, c'est un élément enfin, une base sur laquelle on peut s'entendre, sur laquelle on peut s'entendre. On cherche tous la vérité. Et on dit, enfin, voilà. Donc, c'est ça, enfin, je trouve ça extrêmement réjouissant. Voilà. Et je pense que voilà, ça nous invite vraiment à pousser loin. Le plus loin, ce que le Seigneur nous dit dans cet amour pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Que j'en constate un peu positif.
Bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, non?
Une dernière question.
Alors,
Dans la parabole des justes, enfin, au moment du jugement dernier, en fait, il n'est pas demandé la foi. Il est demandé l'amour.
Et donc ça doit peut-être en même temps nous rendre humbles. C'est-à-dire que nous avons la foi pour certainement une mission. Et je pense que le christianisme, c'est peut-être essentiellement la mission. Voilà, on évangélise pour que la personne croie en l'amour, en fait. Mais une forme tellement concrète de l'amour qu'il est forcé d'y croire, et pour qu'il s'engage sur une voie qui, au moment du jugement, fera que le Seigneur dira, ben voilà, il a aimé, il m'a aimé, en fait. Enfin,
Et alors là, on est vraiment dans le domaine de l'interprétation de la Bible et donc de la théologie. On quitte,
oui.
d'une certaine manière, la philosophie, même s'il y a toujours une dimension philosophique. Mais remarquez qu'en Matthieu 25, pour moi, il y a une affirmation très forte, aussi forte en Matthieu 25 que dans la finale de Jean, de la divinité de Jésus, puisque il affirme que si on fait cela au plus petit, c'est à lui qu'on le fait. Donc, il y a une affirmation très, très forte, hein, de qui est-il pour dire ce que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Mais je reprends ce que vous avez dit vous-même, dans cette perspective-là, le service de l'autre et le choix de servir le pauvre sous toutes les formes que peut prendre la pauvreté devient un acte de foi. Et donc c'est pas, je crois qu'on le Matthieu 25 n'est pas une opposition du salut par les œuvres avec le salut par la foi, mais c'est nous dire que une certaine forme de présence aux autres découle d'une foi, qu'elle soit explicite, consciente d'elle-même ou pas. Mais c'est quand même la foi. Pour moi, c'est une affirmation. Enfin, c'est Matthieu 25, c'est juste avant la Passion. Hein, c'est l'un des tout derniers enseignements de Jésus, exactement comme dans Jean 17, la grande prière sacerdotale, Père Saint, enfin, Jésus. Et Jésus dit, voilà, désormais, enfin, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il y a une affirmation très forte de cette manière-là de qui il est, hein, c'est-à-dire Dieu, hein, qui d'autre peut s'identifier de cette manière aux pauvres et de cette manière transfigurer aussi notre agir. Voilà, on termine par la théologie,
Mais
parce
c'est
qu'elle
très
a de
intéressant.
plus élevé.
Merci beaucoup à Frère Gilles. Et donc,
Ravi,
rendez-vous à tous
Catherine,
ceux qui
merci.
veulent le 3 avril.